Cette semaine, La Vie en BD, un club de lecture qui joue avec les quatrièmes dimensions de la bande dessinée. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée, pour parler 9e art. Et je me suis commis il y a quelques instants, on est en mode club de lecture. Un club qui nous amène au-delà de la page, dans la quatrième dimension de la bande dessinée autour de ces albums, de ces bandes dessinées, qui joue avec les codes, qui joue avec le fait que le lecteur connaît peut-être ces codes également. Alors, on a quatre titre qui sera fort agréable de discuter au fil de la prochaine heure. Et évidemment, qui dit discussion implique un groupe de gens parce que ça serait pas une grosse discussion si je jasais seul avec moi-même. Alors, je fais un tour de table pour saluer les libraires en résidence de La Vie en BD. Alors, Émilie Roy-Brière, bonsoir.
Bonsoir, Raymond.
Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut, Barry White. Salut à tes auditeurs.
T'as remarqué ma voix rauque de fond de rhume?
Ah non, mais superbe, je suis séduit complètement.
En fait, ça fait penser, je pense que c'est Soldat Louis qui chantait du rhume des femmes, donc on est vraiment... Et Marco Duchesne, bonsoir.
Bonsoir, moi je préférerais Crossroad.
Alors, je le disais, en fait, on est dans un livre, dans une thématique autour de quatre livres qui jouent avec les règles de la bande dessinée. Avant de détailler le thème, je mentionne les quatre livres qui seront en discussion au fil de la prochaine heure. Je vous rappelle évidemment les règles du club. Quelqu'un trouve un thème, chacun fournit un livre, on lit les livres et ensuite on en parle pendant environ une heure. Alors, cette semaine, c'est En cuisine avec Kafka de Tom Gold chez Alto. C'est Sam's Strip, The Comic About Comics de Mort Walker et Jerry Dumas chez Fantagraphics. C'est Pascal Jousselin, Imbattable, tome 1, Justice et légumes frais chez Dupuis. Et également, du côté de la pastèque, Jean-Paul Hyde avec son fond du trou, une aventure de Jérôme Bigras. Alors, un thème, ma foi, qui nous a amené des lectures fort intéressantes, fort engageantes, et un thème qui a été proposé, si je me trompe pas, par notre sympathique Marco.
Ben voilà, oui, c'est encore moi qui choisis des trucs qui parlent de BD. Oui, parce que ça m'a toujours fasciné, ça. J'adore quand la BD est consciente. En fait, le sujet était ça. Et quand les personnages et la BD qu'on est en train de lire est conscient que c'est de la BD, qu'il y a un dessinateur derrière et que et de la façon dont c'est construit pour aboutir à un scénario et à une histoire avec un début, un milieu, une fin. Oui, le quatrième mur, quand exemple Deadpool s'adresse au lecteur ou au cinéma quand il s'adresse au spectateur. Oui, mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand le personnage, lui, est conscient qu'il y a justement au-delà du quatrième mur, il y a une troisième dimension. Il y a effectivement quelqu'un qui l'a créé et qui l'anime.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut briser le quatrième mur immédiatement? Là? J'aurais quand même quelques trucs à raconter du behind the scenes du club de lecture de La Vie en BD, parce que bon, là, c'est au tour de Marco de choisir une thématique. Puis là, un matin, Marco est en train de pitonner sur son téléphone et regarder des trucs sur Facebook. Puis bon, Marco est abonné à comme tout plein de guidis de vieux comics, genre. Puis là, il me montre une seule et unique case de bande dessinée, qui n'est même pas de Mort Walker, qui est le BDS qui l'a choisi, qui est de Gary Larson. Puis, dans la case de bande dessinée, on a un type attablé à un bureau, il y a son patron qui débarque, on a une bulle en nuage, là, du type au bureau, puis là, il se dit... Ah ouais, merde, là mon boss, là, une espèce de gros geek, je l'haïs tellement. Puis, en bas de la case, on a la réponse du patron qui dit « Ah ouais, ben Lewis, t'es viré, t'as oublié que c'était un comics, puis que je peux lire tous les mots que t'es en train de dire. » Puis là, il se tourne vers moi, puis il dit « je pense que j'ai trouvé ma thématique pour le club de lecture. Et donc, sans l'expliciter une seule seconde, là, ça, c'est les thématiques bizarres à Marco.
Mais en fait, Gary Larson, ce strip-là, entre autres, Gary Larson en a fait plusieurs, où les personnages s'impliquent dans le fait d'être conscients qu'ils ont un dessinateur et même que ils sont au courant que parfois le dessinateur est un peu le tortionnaire un peu de. Alors c'est ça qui m'a guidé. Et moi j'ai choisi Sam Strip qui est un comic des années 60 fait par Mort Walker qui est le créateur de Beetle Bailey. Ce petit comic, je pense qu'il y en a eu en français dans les journaux au Québec de ce soldat des années 50 ou ce soldat, ce pauvre soldat un peu niochelon qui se fait mener la vie dure par ses supérieurs, mais aussi qui mène la vie dure aussi à ses supérieurs. Donc, Mark Waller a créé Sam Strips qui est en fait un personnage qui au courant qu'il est un personnage de strip et là, il veut construire un strip avec des décors. Il s'adresse au dessinateur, il s'adresse aux spectateurs, il invite des personnages de strip de toute l'histoire du strip, surtout américain. Donc, il fait interagir ces personnages-là, autre que dans, il les sort de leur contexte où eux ne sont pas conscients, évidemment, qu'ils sont des personnages de strip, mais il les invite dans son strip à lui, dans ses bandes dessinées à lui, et là, ils prennent conscience qu'ils sont des dessinateurs. Bref, voilà. Pourquoi j'ai choisi, on peut en parler plus tard, mais...
Et quand même, dans les années 60, en fait, comme quoi, quand on dit, je veux dire, la BD, du moment où elle a commencé à exister, elle a commencé à jouer avec ses codes, là, je veux dire...
Ah
là,
oui, mais tu sais...
Ça a été de toujours, et visiblement, d'avoir un produit comme ça qui arrive, on en parlera tantôt, là, mais...
Tu sais, Yellow Kid, c'était un personnage, c'était un jeune... ça décrivait une BD dans laquelle un jeune garçon chauve animait dans le quartier et tout, puis la BD, ben... souvent il s'adressait, sa face était tournée vers le lecteur, mais lui, la façon de communiquer à l'époque, on n'avait pas encore pensé à, ben, il y avait des essais qui avaient été faits, mais on n'avait pas pensé encore aux bulles, aux phylactères. Alors lui, il s'exprimait par ses t-shirts. Il y avait un grand t-shirt jaune parce que c'était la seule couleur à l'époque pour les journaux au début du 20e siècle. Alors tout ce qu'il disait était imprimé sur son t-shirt. C'était la case, c'était la façon dont il invitait le spectateur à lire son t-shirt pour exprimer ce qu'il avait. Donc ça, c'était tout début du 20e siècle.
Et pour rester un peu dans un esprit strip et journalistique, je pense que c'est Émilie Roy-Brière qui a choisi En cuisine avec Kafka de Tom Gold.
Oui, d'ailleurs, j'imagine que je bats le record du club de lecture de deux Kafka en deux émissions de suite. Tom Gold, ben...
Jamais 203, d'ailleurs.
Jamais 203. ça va être une contrainte pour le prochain. Variation sauf Kafka en quatre bandes dessinées. Mais Tom Gold, moi, mon premier contact avec Tom Gold, c'était par Facebook, par des amis amateurs de lecture, amateurs de BD qui partageaient ses comics. Y en a un qui est comme très, très connu, qui montre une bibliothèque. Tous les livres sont de différentes couleurs, puis on a une légende. Voici les livres que j'ai lus, voici les livres que j'ai haïs. Voici ceux que j'ai achetés puis que j'ai pas lus, voici ceux que j'ai achetés puis je l'ai regretté. Y en a tout plein que vous avez vu passer avec cette espèce de bonhommes qui sont très très simples, puis on joue beaucoup sur les codes de la littérature. À chaque fois, c'est fabuleux, il y a plein de références à la culture pop. Donc, compte tenu que je n'avais qu'une seule case de BD pour orienter mes recherches, ben j'ai fixé mon choix sur celle-là.
Et on va dans un tout autre style, et peut-être surprenant que ça vienne de chez Édouard. Enfin, on aurait pu s'attendre à un manga complexe et dense, mais finalement, non, tu nous arrives avec ce brillant ouvrage de Pascal Jousselin, Imbattable.
Ah ben, tout à fait, Don Corleone. oui, j'avais pensé aussi à Achille Talon, qui a beaucoup, tu sais, cette espèce de jeu-là, bon, avec l'éditeur, avec le tout. Mais bon, on en avait déjà parlé d'Achille, ça avait été déjà mon choix en plus. Et du reste, je dois bien l'avouer, oui, Imbattable, disons, c'est peut-être moins le genre de BD dont on pourrait s'imaginer que je suis amateur. Mais en fait, je pense que le pur génie de Jousselin derrière ça, ce génie bon enfant aussi, est vraiment quelque chose qui moi m'a charmé. C'est peut-être aussi bon le gabarit d'Imbattable. Je trouve qu'on a certaines rondeurs à séparer. Tu sais, Imbattable, ça pourrait être moi, ce petit bonhomme comme ça. Et parce que justement dans tout le paysage des super héros musclés, bon, athlétiques, et splendides et tout, ben arrive comme ça ce petit rondelet Imbattable qui lui a un seul super pouvoir, mais quel super pouvoir? Justement, il sait qu'il est dans une BD et il a le plein contrôle de tout ce qui se passe justement dans chacune des petites histoires, des petites scénettes en fait qui vont former dans le fond son univers. Et c'est peut-être que ça rattachait avec mon cœur d'enfant, je le sais pas, parce que je me disais en même temps, j'étais peut-être encore une étape aussi où je continuais d'être prof. Bon, on le fait toute sa vie, là. Mais j'approfondissais un peu plus mes horizons en termes de BD, justement, en termes de décadrer ça, disons, des formes un peu plus classiques. Et je me dis, mon Dieu, tu sais, pour un enfant, un adulte, pour n'importe qui justement veut voir la potentialité d'une BD d'une manière simple, mais tellement efficace, Imbattable. Écoute, pour moi, ça a été gagnant, et donc je ne pouvais pas ne pas y aller avec ça ce soir. J'y retourne de temps à autre à chaque fois, et c'est toujours avec le même émerveillement, le même plaisir. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Ouais.
Et de mon côté, enfin, on peut dire qu'avec une thématique comme celle proposée par la case de Marco et Marco, il y a des éléments et des titres qui sont un peu incontournables. Tu as mentionné Achille Talon, on aurait pu aller par là. On s'en était parlé au sortir de l'émission le mois dernier. Marc-Antoine Mathieu, évidemment. Et du côté québécois, ben c'est Le Fond du Trou de Jean-Paul Hyde, qui est, je pense, un incontournable dans ces BD qui jouent avec les codes, qui jouent avec la structure, qui expérimente avec la bande dessinée. Et en fait, pour moi, c'est une bande dessinée qui est à mettre aux côtés des belles expérimentations faites au Québec, et même plus largement qu'au Québec, autour justement de la bande dessinée. Quand on regarde dans l'expérimentiel québécoise, on peut penser au Morlac, au Sid Liftant, des autres, il y a quelques albums comme ça qui sont un peu incontournables chez nous et qui arrivent à aussi vieillir bien dans cette expérimentation-là. Je veux dire, il aurait pu sortir cet ouvrage-là cette année, ça serait aussi percutant. En fait, il l'a ressorti d'ailleurs l'an dernier du côté de ses éditeurs en version colorisée. C'est toujours aussi percutant que ça l'était en 2011 lors de sa sortie initiale. Pour moi, en fait, ce qui est absolument fascinant, c'est la contrainte que s'est imposée, dans le fond, l'auteur, qui est de travailler avec un trou, en fond, qui est pas exactement au milieu de la page, mais qui est au même endroit dans toutes les pages. Et, dans le fond, qui doit être intégré dans l'histoire, qui doit devenir un moteur de cette histoire-là, qui doit la faire évoluer, la faire reculer, la faire ralentir, et qui force Hyde, qui est un auteur brillant, évidemment, à aller au bout de son imaginaire, au bout de creuser dans ses processus pour mettre vraiment plein de trucs, plein de stratégies pour surprendre le lecteur, et pour que jamais, sur les nombreuses pages de l'album, on a l'impression qu'on tombe dans la redondance, dans l'usage de ce trou-là. Évidemment, quand on se lance avec un projet comme celui-là, j'imagine que pour l'auteur, ça doit être vraiment un saut dans le vide, littéralement, parce que ça doit être une contrainte qui est, d'un point de vue scénaristique, extrêmement difficile, extrêmement complexe. Et on sent que Hyde a été vers le personnage de Jérôme Bigra, qui avait introduit dans Crow en 1988, pour rester dans un univers qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien, mais évidemment, au fil d'un album qui devient progressivement pratiquement labyrinthique. Pour l'argument de départ, on est dans une banlieue plate au possible, mais à un moment donné, il y a un trou qui se génère assez rapidement, évidemment, parce qu'il est là dans l'album. De ce trou-là, finalement, génère une aventure, je reprends le terme, labyrinthique, dans le fond, qui nous amène à l'avant, en arrière, et qui exploite, au bout du compte, les codes de la bande dessinée. Alors, je pense que c'est quatre plaidoyers presque passionnés pour nos albums, donc on va s'entendre qu'on a lu des belles choses ce mois-ci, groupe. Et maintenant, dans le fond, la question, c'est autour duquel commence-t-on à décortiquer, à creuser, à gratter un peu plus Édouard Tremblay?
Évidemment, on aurait pu y aller, de manière chronologique, puisqu'il y a quand même une évolution certaine dans tout le travail qui est fait là-dedans. Mais j'aime bien, tu parlais de contraintes, justement, et je pense qu'il y a à chacune de ces BD-là, de par justement le nombre de pages, le nombre de cases qui est consacré à tout, des contraintes qui leur sont propres. De la même manière, ben alors qu'à chaque fois justement on joue avec le quatrième mur, la façon dont on va traiter ce bris-là, la façon dont on va jouer in extenso aussi avec les codes de la BD sera pas nécessairement bien sûr la même d'une fois à l'autre. Et ben je me disais, allons-y déjà avec celle qui a la contrainte en fait donc caricaturale, en fait, ou celle du caricaturiste, c'est-à-dire celle de En cuisine avec Kafka, ben dans le fond, si j'ai bien compris, c'est des images qui avaient été publiées dans The Guardian, je crois, à la base. Et donc, on a ben justement ce que j'appelle justement la contrainte du caricaturiste, c'est-à-dire que là, il faut raconter quelque chose. Il faut générer ou générer justement une réflexion à partir d'une seule image, à partir d'un seul texte, un peu comme le faisait l'image d'Épinal à une certaine époque, mais je faisais même les caricatures justement du New Yorkers ou
En fait, le terme en anglais est cartooniste.
Cartooniste, ouais. Ouais.
En français, ça donnerait dessin humoristique ou.
Oui, parce que ça va au-delà en fait de la caricature d'actualité.
En fait, c'est le dessin, c'est un dessin. Une case et le texte souvent qui est en dessous.
Voilà.
Mais dans ce cas-ci, je pense que il y a cette contrainte-là, mais il la dépasse, lui, en mettant des cases.
En fait, ça devient des strips parfois.
Il fait souvent des strips, mais toujours avec la contrainte de le texte qui explique. Peu de fois, il y a des phylactères, mais la plupart du temps, c'est ça. Alors, lui, il fait comme jouer, mais ne dépasse jamais le fait qu'on se pose la question.
Oui, parce que dans le fond, il y a un peu deux types de livres de Tom Gold. Il y a ceux qui sont issus de son travail dans Guardian, donc En cuisine avec Kafka, Vous êtes tout jaloux de mon jetpack. Et il y a ces histoires plus narratives, Police lunaire ou Goliath, extraordinaire aussi. Personnellement, en fait, moi, quand je vois passer un Tom Gold dans le club de lecture, je le sais qu'on va avoir droit à de l'humour british, pince sans rire, avec un style minimaliste, mais qui est tellement expressif. Et je trouve que c'est beaucoup, dans un ouvrage comme ça, faire beaucoup avec peu, au final. Il y a peu de détails, il y a peu d'informations, c'est très concis. Au bout du compte, ça va à l'essentiel, et ça revient peut-être à ce que tu disais, justement, sur la notion d'une image, d'une case. Je veux dire, on se donne une économie de moyens, et faut que ça soit absorbé dans le contexte d'une page, dans le contexte d'un livre, d'un magazine qu'on est en train de lire. Donc, il y a un contexte de consommation premier qui est pas nécessairement le même que dans une expérience livresque, qui force aussi peut-être un peu à maximiser cet espace-là, cette concision-là.
Et à générer une réaction, parce que là, c'est ça, c'est pas juste, je sais pas, une photo de pub ou quelque chose comme ça, là. Faut que ton image, faut que ton texte amène, ne serait-ce que rire, hein, tout bonnement, mais aussi, des fois, ben, tu sais, pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Et même, je prends celui qui a donné le titre, en fait, En cuisine avec Kafka, ben, c'est un parfait exemple de ça, où on a Kafka très sombre et tout, il parle de la vie comme qu'il y a pas de lendemain, tout est noir et tout, mais en même temps qui prépare un gâteau, c'est juste ça en quoi, peut-être deux cases, trois cases max, c'est absolument génial.
En fait, c'est un trait d'humour. L'humour anglo-saxon, t'as deux catégories, c'est les Américains et les Anglais, et qui traitent à l'envers la façon de le faire. C'est-à-dire que les Américains vont traiter l'ordinaire avec de l'extraordinaire. C'est-à-dire que le comique américain va te raconter quelque chose de tout à fait ordinaire, mais comme si c'était la fin du monde et tout ça.
Mais on n'a qu'à penser à l'aide de personnages extraordinaires aussi.
Oui, mais
comme les aventures de Superman.
Oui, mais
c'est des choses incroyablement fantastiques.
Tout à fait, mais les humoristes, les stand-up font ça, à raconter des trucs bien ordinaires, mais comme s'il y avait plus de fin, puis comme si. Et le contraire, les Anglais vont te raconter quelque chose d'extraordinaire, mais comme si c'était vraiment ordinaire. C'est comme si on pense juste à penser au Mike Python et à Woody Allen, comment il compte les histoires, c'est exactement. Et là-dedans, c'est ça. Tu sais, tous les textes racontent quelque chose de très extraordinaire ou très fantaisiste ou très sorti du quotidien, mais il te le raconte avec, et surtout dans ce cas-ci, il te le raconte avec avec un sérieux littéraire. Mais c'est vrai, avec un sérieux littéraire là à te donner là, tu sais les trucs c'est dans ces si je me rappelle, c'est il y avait des trucs des les genres littéraires comment un auteur peut rendre son, et là ça c'est raconté c'est super, tu sais, c'est
comme
là,
les, ça a pas d'allure, mais les meilleurs livres de cuisine écrits par des gauchers finlandais
c'est
ou
ça,
quelque chose comme ça,
tu sais. Et c'est très extraordinaire, mais c'est raconté avec un sérieux. Le texte te raconte ça comme si c'était un genre littéraire qui existe, là.
Moi, oui.
Voilà. Alors, tu sais.
C'est, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu le pain sans rire. Je veux dire, on nous raconte avec grand sérieux quelque chose d'absolument ridicule, au final, et ce décalage-là avec le sérieux dans lequel s'est présenté et le ridicule de ce qui nous est présenté, ben, c'est ça qui crée pour moi l'effet humoristique. Ça, jouxté au fait que Gold nous va avec trait d'esprit sur trait d'esprit sur trait d'esprit, où il est capable, en fait, et j'admire cette capacité-là de capter, dans le fond, une idée. Vous êtes capable, je reviens là-dessus, de la synthétiser, d'aller chercher sa substantifique moelle et de nous l'offrir en peinture comme ça, et de savoir, ben dans le fond, que l'idée nécessite une case, qu'elle nécessite quatre petites cases, mais que ça prend jamais beaucoup d'espace, de trouver la bonne idée pour le bon format, si on peut dire, et pour le bon rendu, et je trouve qu'il y a une adéquation là-dedans. Et évidemment, j'imagine que le prix Kafka, parce que c'est truffé évidemment de blagues autour de la littérature, autour de l'expérience de lecture.
Oui, puis à le relire, je constatais que l'espèce de déconstruction était beaucoup moins sur la BD que sur la littérature, qui était un peu en adéquation avec le souvenir que j'en avais. Tu sais, je croyais que ça jouait sur les codes de la bande dessinée, finalement, oui, mais pas tant que ça. Comme les deux barbares qui partent à l'aventure, puis bon, là, l'aventure commence à être vraiment plate depuis qu'ils ont lu un livre sur le schéma narratif. Ah oui, ben là, on a eu notre situation initiale, là, on devrait rencontrer des péripéties, on réussira probablement pas du premier coup, des choses comme ça. Puis moi, ce qui vient me charmer à chaque fois dans les bandes dessinées de Tom Gold, c'est quand il se met à faire des variations sur un même thème. Donc, ah oui, voilà, auteur de romans policiers, voici comment pimenter votre récit. Si vous choisissez l'énigme insoluble, ben votre enquêteur risque de se décourager, puis ben votre histoire aura pas de fin. Ou voici des nouveaux archétypes d'héroïne, la bibliothécaire assoiffée de sang, la cuisinière voyageuse dans le temps, puis à chaque fois on dirait que ça ouvre une porte sur, en fait, quelque chose que je lirais, là. On a un peu le même humour que dans le Guide Galactique.
Oui, quelque chose qu'on lirait, ou sinon un rappel de ce procédé-là, un rappel que, ben oui, ou ben justement, tu sais, l'exemple des héroïnes, ça nous ramène aux archétypes. Donc c'est d'exploiter un peu et de détourner aussi ces archétypes-là ou ces attendus-là ou ces éléments structurels-là.
Aussi, puis c'est truffé de références littéraires, mais bon, je suis probablement un peu biaisée là-dedans parce que je suis libraire, mais j'ai l'impression qu'il y en a que j'ai pas besoin d'avoir lu pour comprendre un peu c'est quoi l'enjeu, comme justement le personnage de Jane Eyre qui s'en va confronter son mari, puis elle dit « Quoi? Ton ex-femme était cachée dans le garde-robe tout ce temps, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu me caches? » Puis finalement, ben bon, la bande dessinée est plus sur... pas sur le fait que que son ex-femme était cachée dans le garde-robe, mais qu'il y a d'autres choses qui lui cachent, puis c'est des trucs qui sont de plus en plus ridicules, là, comme des orteils très poilus ou quelque chose du genre.
Mais il y a, tu sais, je pense qu'il y a dans tout ça une volonté, justement, de satire, d'autodérision même aussi, parce que bon, tu sais, prenons Gaulle, prenons la littérature, prenons ça comme, tu sais, un ensemble unique, là, puis je veux dire, c'est cette autodérision, c'est cette volonté humoristique que je me rends compte qui est, dans le fond, est-elle intrinsèque à, justement, à l'explosion du quatrième mur en BD, ou est-ce par hasard que nos quatre titres, en fait, tombent tous du côté de l'humour? Ben, je me dis, en même temps, c'est justement cette autodérision, ce décalage, ce décadrement enfin des attentes du lecteur qui provoquent encore une fois, tu sais, le fait de l'humour, comme expliquait Marco, tu sais, là on a des choses qui vont être présentées à la British, tu sais, des affaires complètement absurdes de manière très sérieuse, mais tu sais, tu regardes par exemple, bon, tu sais, Sam Strip, où là, tu sais, tu vas jouer avec tes codes propres, mais encore une fois toujours avec cette propre autodérision. Je pense le meilleur exemple, Sam qui essaie de faire son strip et qui gaspille les trois quarts du strip à essayer de faire son strip. Et finalement, ben, je peux pas vous en faire cette semaine parce que j'ai tergiversé pendant les trois quarts. Parce qu'il faut comprendre, bien sûr, que là, on est avec cette contrainte constante de, tu sais, comme trois quarts. Et même aussi juste, par exemple, l'usage qu'il fait des bulles. Tu sais, les mots sont dans un garde-robe, on peut les utiliser, mais encore une fois, c'est un univers qui lui est, en même temps, tu sais, qui lui est propre et dans lequel, bon, c'est peut-être moi qui délire, mais quelque chose, il nous embarque parce que si vous regardez la façon dont Sam est dessiné, de manière quand même, pas approximative, mais quand même, et puis accès schématique, mais toujours, c'est nous qui, on est complices de Sam tout le temps. C'est avec nous qui deal, c'est tout avec fait. Nous qui c'est nous qui embarque dans cet univers-là, dans ces codes-là, dans ça.
Au point de, effectivement, là t'as raison, puis ça et là j'allume sur certains quand Sam on est complice et tout, il nous montre son univers, mais tu sais, il nous embarque avec lui quand il va jaser avec le dessinateur là. Attends là, il y a des revendications à faire, il y a des demandes à faire, et là t'es impliqué et complice de ce personnage là qui t'a embarqué depuis le début comme étant, ben, t'es le lecteur d'un strip qu'on va construire. En fait, c'est créé. Il t'avertit que, bon, tu vas pas lire quelque chose, on va le construire ensemble. On va le construire ensemble. Et c'est ce qu'il fait. Là, on devrait inviter des personnages. Et là, on va chercher des personnages de...
Ou les chiens sapins, on va aller chercher des animaux.
C'est ça. Et chaque fois, c'est ça. On n'a pas le droit aussi. En fait, c'est ça. On n'a pas le droit à un strip. Non, mais... c'est pour ça qu'on fait ça.
Je donne des épiphanies à Marco comme ça sur des bases régulières.
Ouais. Hein, c'est ça. Et en fait, ce strip-là a jamais d'histoire. On est toujours en train de construire le strip comme tel, avec de nouveaux personnages, avec un sidekick, c'est-à-dire un partenaire qui, lui...
qui est jamais nommé, en plus.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de nom. Plus tard, la petite histoire, c'est que ils auront pas, les deux auteurs auront pas le succès commercial. Ça va s'arrêter après 2 ans. Mais au niveau de la critique, ça va être dithyrambique, là. Ils vont avoir le... Et 2 ans plus tard, ils vont refaire un truc avec à peu près les mêmes personnages qui vont s'appeler Milo et quelque chose. Là, le personnage, le sidekick va être nommé. Mais dans celui-là, effectivement, c'est un faire-valoir. C'est un sidekick qui est là pour aider Sam à être drôle dans sa façon de construire son...
Et d'expliquer, enfin, un peu comme avec Kafka tantôt, oui. On était beaucoup dans la déconstruction de la littérature, au bout du compte, à la recherche d'éléments de référence. Et avec Sam Strip, ben, au bout du compte, on prend un projecteur qui était très large chez Gold et qu'on vient vraiment resserrer à la nature et à l'esprit du strip, qui était publié à l'époque de l'âge d'or, dans le fond aussi du strip comme tel, et qui effectivement confrontait le lecteur, en fait, au code, aux approches, aux choix, aux décisions sur c'est qui le personnage, c'est quoi le personnage secondaire, c'est quoi l'action, ok, il faudrait un punch, ok, il faudrait ci, et ça devient une lecture qui est très engageante, parce que pour moi, de lire un truc comme ça, après ça, quand tu retombes dans des strips classique auquel lui fait référence finalement, mais ça te renvoie aussi aux apprentissages, aux clins d'œil, aux éléments que au bout du compte Walker puis Dumas nous ont mis dans la face avec cet ouvrage
là. Tout à fait. Et tu sais, là on est en dans les années 60, donc tous les personnages, les strips qui sont depuis le début du 20e siècle, ont fait leur marque, ont fait leur trace, ont marqué Blondie, Crazy Cat et toutes les autres, la famille Lico en français, ça s'appelait comme ça, Pim Bam Boom en français aussi, mais je me rappelle plus des noms en anglais, ont toutes fait leur marque et tout. Donc, eux arrivent, puis ils leur rendent hommage en les insérant dans le strip et en parlant d'eux. Tu sais, on voit arriver Blondie. Ah, on a, tu sais, même ici au Québec, dans les journaux, à l'époque des journaux, avec la page, avec les bandes dessinées, il y avait, tu sais, c'était des achats de BD américaines, donc, tu sais, Beetle Bailey, moi, je me rappelle d'avoir vu ça dans le journal, peu importe lequel on lisait, là. Et là, et tout à fait avec, en parallèle avec Kafka de Gould, c'est ça. C'est le même principe. Je regarde ça, puis je me dis, ah, wow, OK, lui aussi fait ça, mais avec le strip, cet hommage-là, puis...
Mais c'est vrai que tous ces personnages de l'âge d'or du strip, on les retrouve dans Sam Strip, justement. On parlait de Crazy Cat, de Blondie, puis je veux dire comme... Bon, vous êtes toutes des vieilles barbes ici, là, mais Blondie, ça s'est rendu jusque dans mes journaux quand moi j'étais jeune. Tu sais, c'est un peu comme l'île de Gilligan, là, le... Non, c'est vrai, la rediffusion infinie des mêmes strips depuis les années 50. Non, puis d'ailleurs, Crazy Cat, si je t'avais pas connu, je l'aurais pas reconnu, là.
Ouais.
Avec, tu sais, avec le personnage du chat, de la souris. Non, c'est sûr qu'il parle un peu proche aussi, là.
Il y a certains qui sont un peu pointus, là. Il y en a, tu sais, Little Nemo, Crazy Cat, ça a été dans les premiers, puis, tu sais, mais ce qui a suivi par la suite, plus ça a été, plus certains strips, certains auteurs et certains personnages se sont comme démarqués. Et c'est dû aussi au travail des syndicats, qu'on appelle les syndicates aux États-Unis, c'est-à-dire c'est des compagnies qui achetaient les strips. Ils achetaient les strips, tout dépendant de les auteurs pour quel journal ils travaillaient. Alors, ils achetaient les strips au journal, pas à l'auteur, parce que l'auteur pouvait bien aller se faire...
Non, c'est sûr.
Puis les syndicats, ils distribuaient les strips dans tous les journaux nord-américains.
Oh, oui, c'est comme une agence, finalement.
C'est ça. Alors... Et plus ça avance, plus les premiers qui n'ont pas profité de ça sont un peu tombés dans l'oubli pour certaines raisons. Pour d'autres, ils sont passés un peu comme dans la référence ou dans l'histoire de la BD. Mais pour les autres, au fur et à mesure que ça avançait, ben là, ils étaient plus connus, ils étaient plus populaires et commercialement, ils étaient plus rentable qui soit distribué dans tous ces journaux-là. Et c'est pour ça qu'ici au Québec, les journaux faisaient affaire à ça. Ils achetaient les traductions.
C'est ce qui avait tué, en fait, le strip québécois dans les journaux aussi. Par ailleurs.
Ah oui.
Et comme quoi, mais dans le fond, encore là, on revient un peu au contexte de production de cet ouvrage-là, qui nous renvoie aussi au style. Je pense qu'on est dans le ton, dans le style aussi de cette époque-là, qui nous renvoie, on le disait tantôt, à l'âge d'or de ce strip journalistique, mais... Je réitère, quelle belle découverte, Marco, dans la mesure où, tu sais, pour moi, je le disais d'entrée de jeu dans l'émission, mais ça me flabbergasse toujours quand je sors le tagline, ben, la BD a passé sa vie à se réinventer du moment où on développe un genre, ben, on questionne le genre, on s'amuse avec la structure du genre. Et ça, c'est un autre bel exemple, au bout du compte, parmi une panoplie d'autres exemples qui font la même chose avec différents styles, à peu près en même temps qu'on construit, dans le fond, ces codes-là, qu'on travaille avec ces personnages-là, parce que, Blondinette, ben, des années 60, était encore là, c'était encore nouveau, là, oui. On n'est pas des années 90 où ça fait 10 ans qu'on la voit à chaque dimanche.
Je veux dire, on parle de Popeye, et Popeye est né dans les années 20, fin 10.
Oui, oui, oui.
Et Popeye,
c'est un héros de la Grande Dépression, Popeye.
Ben, tu sais, à un moment donné, et là, quand je lisais les premières années, les premiers strips, c'était quotidien, il y avait des strips, mais le dimanche, il y avait la pleine page et tout, en couleur. Il est né dans à l'époque, les pages portaient pas les pages des comics ne portaient pas le nom du personnage. Ils portaient plutôt un nom générique, là, comme Trumbo Tater pour Popeye, Gasoline Alley pour Squash et Quiddy. Popeye est né dans Trumbo Tater, puis je regardais ses premières aventures quand il avait fini par être le personnage principal. À un moment donné, en 1941, dans une histoire où il court après un trésor, mais se ramasse dans le désert, à la fin du strip de la journée, il est dit que si Popeye survit au désert, il est un super-homme. It's a Superman. Et c'était 6 mois avant que Superman naisse. Tu sais, ça a été un des premiers... Non, mais tu sais, ces détails-là, à un moment donné, je regardais ça, puis tu sais, Popeye, il était d'une force naturelle. Les épinards sont venus après parce que le gouvernement est allé voir l'auteur et a dit « Y a-tu moyen que tu nous fasses la publicité pour les épinards? » C'est,
ouais,
pour que les, c'est
les
américain.
Enfants
là,
manger pour
veux dire,
enfants,
la culture américaine produisait des épinards et d'autres choses, mais là, il avait envie que ils se vendent un peu plus. Tu moyen que puis là le journal est allé voir Seeger puis il a fait il peut-tu manger des épinards puis là ben boum papa il était et on en a fait sa force tu sais pour les jeunes
ouais,
alors
ouais.
Tu sais c'est tout ça toute cette époque là de travail sur ce qu'on raconte et de la façon dont on le raconte a influencé toute la BD américaine européenne puis et tout le reste tu sais puis encore là, on travaillait encore dans Sam Strip avec ses trois cases. C'est foutu trois cases. Tu sais, le strip américain, c'est trois ou quatre cases. Même que des fois, c'est juste une case. Je vous avais parlé de Denis La Menace avec son seule et unique case avec le texte en dessous. Puis, tu sais, je vous ai toujours dit à cette époque-là, quand on en avait parlé, je vous ai dit c'est une case. On voit Denis La Menace. On le voit avant ou après un mauvais coup. Mais quand on lit, on imagine tout le mauvais coup. T'sais, on le voit dans notre tête. T'sais, ça fait fonctionner. Oui. Et ça, c'est avant Hergé avec sa fameuse...
avec sa fameuse case de
Tintin
au Tibet.
Oui, c'est avant. T'sais. Je veux dire, tout ça est interrelié. T'sais, tout, t'sais, je voyais une case de Tintin... dans Tintin au Congo, Tintin abat des antilopes. Il se lève, il abat une antilope, il se relève, il est encore en vie, il l'abat. Puis là, il s'aperçoit qu'après plusieurs tirs, il y a une montagne d'antilopes. Ben, dans Popeye, Olive Oil, elle plante des cowboys dans un sous-sol, un par un, puis elle pense que c'est le même, mais à un moment donné, il y a un tas de cowboys knock-out. Tu sais, tout ça est comme... à cette époque-là, tout ça est un espèce de nid d'imagination qui partait dans tous les sens. Et...
Oui, puis qui n'avait pas encore été récupéré dans un film médiocre des années 80.
Ah, puis tu parles du Popeye.
Oui.
Ouais. Attends, c'est la comédie musicale.
Ah, c'était une erreur. On pourrait en faire un sujet de lecture, mais je suis pas sûr que...
Mais mais je trouve ça intéressant ce que vous générez en fait comme discussion, parce que, tu sais, je veux dire... En même temps, c'est ça, en partant de cette espèce de creuset qui est la BD classique, bon, justement, puis le strip et tout. Puis là, tout d'un coup, tu sais, on a justement avec Sam Strip cet hommage comme ça aux gens du passé, puis dire, tu sais, à quelque part, on s'inscrit là-dedans, mais est-ce que nous, on peut pas l'amener, tu sais, comme ailleurs? Et là, ben là, ailleurs, c'est cette interaction, c'est ce bris du quatrième mur, où dans le fond, encore une fois, tu testes essentiellement les potentialités de ta BD par rapport à ton auditeur, jusqu'où je peux l'embarquer dans mon histoire. C'est pour ça que je disais que Sam, tu sais, c'est le complice. Mais, tu sais, à quelque part aussi, quand tu regardes quelque chose comme Imbattable, où on a encore une fois l'utilisation de ce fameux espace intercalaire, justement, et ce fameux blanc entre les cases qui est tellement important, dont on parle justement parce que c'est lui qui génère l'imagination du lecteur, c'est lui qui amène le lecteur à meubler ce qu'il ne voit pas dans la BD. Mais là, je veux dire, on est au-delà de ça, là, je veux dire, Imbattable, lui... la page, l'espace intercalaire, tout ça, il en est le maître parfait. Et donc, il étire son univers au-delà de ça. Je veux dire, si tu tombes de la page, t'es dans le néant, là. T'es plus dans la BD, là.
Non, mais ça dépend, parce que Imbattable se fait quand même damer le pion par d'autres personnages qui ont des pouvoirs liés à la bande dessinée qui sont pas les siens.
Oui, oui.
Comme on a, c'est quoi, c'est Papy Cochonnet, je pense, le type du terrain de pétanque qui manipule les bulles. Puis tout ce qu'Imbattable comprend, c'est qu'il y a quelque chose avec le son qui est pas normal, mais il arrive pas à mettre le doigt dessus. Ou quand on a le super criminel qui va kidnapper l'enfant du président, lui a le pouvoir de traverser les pages, mais c'est un pouvoir qu'Imbattable ne possède pas.
Non, mais c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'évolution ou par rapport à la codification de tout un chacun, parce que tu regardes ça comme dans Sam Strip, justement, les bulles, ils jouent avec ça, ils vont les chercher, ils vont en chercher d'autres et tout. Alors que là, ben, c'est pas les bulles, c'est l'espace autour, c'est la page, c'est le jeu de l'alternance des cases qui va être, tu sais, mis en cause.
La carte que j'aurais tendance à amener là-dessus, c'est que faut rappeler, et je suis très contexte aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même dans le contexte d'un livre qui est apparenté à la littérature jeunesse, qu'on retrouve dans les rayons jeunesse des librairies.
Puis qui était publié dans Spirou.
Qui a été publié dans Spirou. Et pour dans mon cas, ben j'ai deux garçons qui l'ont lu aussi. Et je veux dire, la clarté dans ces jeux de code et la limpidité par lequel, à la fois en jouant avec le code, il exprime ces codes-là. Il génère des blagues parce qu'il joue avec des codes que les jeunes ne connaissent pas nécessairement encore non plus. Je trouve que ça montre la finesse, la précision et la force narrative qu'il est capable de générer là-dedans pour qu'un enfant de 6 ans ou 7 ans puisse trouver ça drôle et comprendre pourquoi il trouve ça drôle ou pourquoi c'est surprenant, mettons, qu'il aille chercher le chat, mais que le chat soit encore là parce qu'il va le chercher dans les pages d'en haut, puis que, ah oui, le temps va rattraper finalement. Je veux dire, c'est ce type de gag-là, et que mon plus jeune, dans le fond, à 7-8 ans, il lisait ça, il embarquait là-dedans. Mon plus vieux, à peu près d'un même âge aussi. Évidemment, plus ils vont vieillir, plus on commence à maîtriser un peu les codes, plus on reçoit un niveau encore plus, si on peut dire, ces éléments-là, mais pour moi, il y a une force un peu, si on peut dire, dans cette capacité-là que Jocelyn a dans Imbattable.
C'est pourquoi, en fait, je vais te faire un aveu. Moi, j'avoue que à la librairie, je n'ai jamais pu me résoudre à l'avoir classé en jeunesse. Je l'ai gardé en humour parce que je trouve que, justement, au-delà des enfants, c'est tout le monde, tu sais, qui a jamais lu une BD ou qui se dit, ah, une BD, non, c'est plate, c'est juste des cantes. Non. Puis, tu sais, j'ai rien, je veux dire, contre Julius Corentin, j'ai rien contre, ou Philémon de Fred, ou des choses comme ça. Mais, tu sais, ça, c'est justement, c'est comme tu disais, c'est une limpidité, c'est d'une simplicité. Je veux dire, toute la potentialité de la BD, du jeu des cantes et tout, il va vous sauter au visage. Vous allez faire, OK, c'est ça une BD. Ça peut être tout ça, une BD, ben oui, ça peut être tout ça.
Et ça peut être fait dans une logique grand public, dans une logique accessible. Je veux dire, c'est un album qui est éminemment expérimental, mais qui ne l'est pas en même temps parce que c'est pas parce que c'est expérimental que c'est obligé d'être aride. Au contraire, et je pense que la BD l'a prouvé maintes et maintes fois. Les exemples que tu mentionnes, c'est Fred et le reste, c'est expérimental, mais c'est pas aride. Et Jocelyn, Imbattable, c'est, je veux dire, c'est éclatant.
Parce que le génie de cette BD-là, c'est, le génie de cette BD-là, c'est tout simplement parce que quand on le lit, puis les enfants le lisent, Imbattable a des super-pouvoirs. Mais quand un adulte le lit, Imbattable, derrière lui, il y a un dessinateur. C'est le seul qui lui permet de voyager entre les cases, au-delà de la page, au-dessus de la page. C'est lui qui l'empêche de tomber en bas de la page. C'est le dessinateur qui a le super pouvoir. C'est pas Imbattable. C'est le dessinateur qui fait en sorte que il y a quelqu'un qui manipule les phylactères. C'est le dessinateur qui, tu sais, en fait, c'est ça le truc. Tu sais, dans Julius Corentin, c'est l'évocation que l'origine, à un moment donné, tu sais, et là, tu vas falloir faire ta transition avec le trou. Il y a un trou sur une page, tu sais. Et là, tu sais, le personnage de Julius Corentin vogue au travers de la BD dans le premier, l'origine. Il vogue dans le premier album en se posant des questions sur l'état de la BD et tout, mais il y a au-dessus, tu sais, un être qui, peut-être. Et voilà. Puis c'est ça la différence, c'est ça qui fait en sorte que Imbattable, sur lequel on peut jouer, c'est ça. C'est à un moment donné, l'interaction avec le lecteur, c'est oui, on voit le personnage qui joue sur la, mais tu sais, l'adulte, puis les gens qui finissent par en lire, et ah ok, c'est l'intervention divine de l'auteur.
Je pense que Marco t'a mis de la pression.
Ouais, non, c'est ça. Ben là, Émilie avait l'air d'être un peu dubitative, mais bon. en fait, oui, ben tu parlais donc de Corentin, Dizou, là, de toute façon, tu l'as fait, la transition. Mais moi, j'en fais, je veux dire, on parle de pur génie, puis tu sais, déjà, je trouve que d'être capable, justement, d'aller jouer sur ces deux, trois, quatre pages-là, comme ça, comme Émilie expliquait avec un des personnages qui, je veux dire, regarde à travers le mur et que tu tournes la page, tu vois la face du gars, tu sais, la façon dont il va, tu sais, déchirer un coin de la page, puis que à cause d'un fusil laser, que tout ça marche encore, je veux dire, tu sais, tous ces tours de force là sont impressionnants en eux-mêmes, mais imaginez, chers auditeurs, faire ça à la grandeur d'une BD. Et c'est ça qui est le... Moi, j'ai toujours présenté Haid, quand je parle de Jean-Paul Haid à des clients, même que je parle, j'ai toujours, c'est le grand magicien de la case. Et c'est sûr que quand tu regardes quelque chose comme La femme aux cartes postales, des choses comme ça, t'es comme, t'sais, si t'es pas sensible au rythme des trucs ou à l'agencement de ça, ça paraîtra peut-être moins. Mais je veux dire, si vous comprenez pas avec le fond du trou que ce gars-là est le grand magicien de la case du Québec, je veux dire, c'est tout bonnement extraordinaire. Je veux dire, on se promène back and forth, comme on dit en latin. Écoutez, on va d'avant, on va en arrière, on revient, on retourne, on lit à l'envers. Moi, le personnage de manga, écoute, je me pouvais plus, là. C'est tellement brillant. Et bien sûr, c'est ça, hein, cette fameuse, cette ultime contrainte. Écoutez, il y a un trou bord en bord de la BD, là. C'est pas une page, c'est pas, le trou est à travers la BD. Vous pouvez passer votre doigt, là.
Et quelle idée géniale de l'avoir réédité, mais en cartonné. La profondeur oui. que ça, parce que quand c'est sorti, à moins que je me trompe, là, quand c'est sorti, oui. il était en soupe.
Oui.
Alors, le faire en cartonné, ah putain, là, ça donne une profondeur au truc. Là, il y a un trou.
Oui.
Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un trou, là, tu sais.
Mais moi, quand j'avais lu la première fois, j'ai voulu l'acheter pour moi. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Je me suis dit, oh wow, il faut que j'achète ça. Puis, il était discontinué à la pastèque. Puis là, j'en avais parlé à Marco, tu sais, j'ai dit, ah, mais là, Marco, y a-t-il comme moyen de faire quelque chose? Tu sais, comme, t'es sûr qu'il reste pas un dernier à l'entrepôt, s'il te plaît, tu sais. Puis en fait, c'est vraiment idiot, c'est pire que ça. J'avais conseillé cette bande dessinée-là à un client de la librairie et c'était la dernière disponible au Québec, là, tu sais. Quelque chose de stupide comme ça, là. Le client a toujours raison et le client est toujours servi en premier. Mais là, j'avais pas de BD. Puis là, Marco me disait genre, ah oui, ben là, je pense qu'ils vont faire comme une intégrale des aventures de Jérôme Bigreux, ça devrait se retrouver dedans. Une intégrale? Mais je veux pas ça au milieu d'autres affaires qui ont pas de trou, là. Je veux mon album.
Ben
là,
ben non, c'est
trou.
Sûr, c'est sûr.
Ça aurait été tellement un drôle de move de mettre en anthologie avec d'autres affaires, là, ça aurait pas eu de sens.
Et oui, ben en fait, c'est que le trou a un effet. Je pense que dès qu'on prend l'album, je veux dire, on a même pas besoin, comme tu dis, je veux dire, on le prend, on le saisit, on voit, il y a un trou, il est là, il est physique, et on se doute bien que ça va être une expérience particulière du moment où on commence à ouvrir l'album. Et là, t'ouvres les premières pages, ok, le trou est là, on voit qu'il est intégré visuellement, il est intégré partout parce qu'il est là, on peut pas passer à côté, et très rapidement, ben, il devient le moteur de ce récit-là. Et je pense que le génie de Haid là-dedans, au-delà de l'imagination dont il fait montre pour nous surprendre, je pense, page après page après page après page, c'est le fait aussi que jamais il ne perd sa lisibilité. Je veux dire, il nous fait lire en avant, il nous fait retourner en arrière, il nous fait lire à l'envers, il nous fait amener d'une page à l'autre dans des pages qu'on pourrait pas intercaler parce que les pages d'un côté font référence à la page de l'autre côté ou à quelque chose qu'on retrouve un peu plus tard, mais jamais on ne se perd là-dedans. Mmh. C'est d'une limpidité, d'un fil de lecture qui est vraiment impressionnant.
Complète cohérence, une construction
de génie. Il peut pas faire autrement. Un truc, un concept de même, tu peux pas faire autrement que réussir. Parce que si t'arrives pas à être cohérent et tout, t'es foutu, là. T'arrives avec un trou dans l'album, tu fais « Ah, ok, j'ai rien compris. » Mais non, pas lui. Puis ni Julius, Marc-Antoine Mathieu, ça aussi, tu sais, lui a exploré sur plusieurs albums des trucs, mais tu sais...
Non, puis d'ailleurs, on a...
Ils peuvent pas se tromper.
D'ailleurs, on a un bel hommage à la première aventure de Julius Corentin dans cet album-là. Ils vont sortir une case de BD. Ah oui, attendez, des problèmes de bande dessinée. Est-ce que c'est votre bande dessinée? Puis là, on va montrer une case de Julius Corentin. Puis dit non, c'est pas ça. Moi, c'est l'autre type que je cherche, là, celui avec le casque. Là.
C'était qui, celui avec le casque?
Celui avec le
casque.
Ah oui,
OK. Le
boss des Vegas, le grand méchant du fond du trou, celui qui jaillit de la télévision au début. Puis ben, qui va foutre le bordel.
Oui, mais tu sais, c'est ça. Et lui aussi fait plein de références.
Oui. Puis beaucoup de références à Tintin, entre autres, là. Ne serait-ce qu'avec avec les pages de garde, avec le type qui parle en typographie Tintin. Oh non, là, il reste juste 5 minutes. J'ai parti, Marco. Je suis désolé. On va devoir déborder sur l'émission du mois suivant.
Est-ce qu'on a du temps pour la ligne claire? mais lui aussi fait des références un peu comme les autres à la bande dessinée, là.
Ouais, mais c'est ça.
Mais il y a comme pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, Marc-Antoine Mathieu, il y a comme pas le choix de, ben, il y a pas le choix. Il pourrait toujours ne pas faire, mais rendre hommage à quelqu'un qui a lui aussi exploré.
Oui, mais dans le contexte de clin d'œil, et je pense que la force d'un clin d'œil, c'est que si quelqu'un connaît pas la référence, c'est pas, t'as pas l'impression de rater quelque chose.
C'est ça.
Je veux dire, il fait référence à l'élément de bande dessinée, justement, ben, quelqu'un qui sait pas c'est quoi Marc-Antoine Mathieu, qui reconnaît pas la carte, il va réagir positivement quand même parce qu'il va comprendre le contexte que, OK, il y a d'autres personnages, il y a d'autres contextes de BD. Quelqu'un qui connaît Marc-Antoine Mathieu va recevoir ça. Et je pense que c'est aussi le clin d'œil bien inséré. Je veux dire, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est juste un clin d'œil. Est-ce que ça devient un supplément dans le fond pour quelqu'un qui s'y connaît peut-être un petit peu plus?
Ouais, ben, si ça dure, ça devient un tic, tu sais. Quand t'as un clin d'œil dur ou il y en a plusieurs, à un moment donné, ça devient des tics, puis la lecture devient un peu, tu sais, faut t'essayes de te référencer puis tu te retrouves pas.
Mais quand on parlait des titres en amont justement de la sélection, je pense que c'était un de ceux qu'on avait mis un peu dans les incontournables. Puis j'ai l'impression que je réitère un peu là-dessus, mais c'est en BD québécoise, au moment où tu t'intéresses un peu à la BD québécoise, c'est généralement dans les 10 titres qu'on va nous amener au devant en disant, mais hey, lis ça, tu veux voir qu'est-ce qui se fait de bon au Québec, lis le fond du trou. Ça rentre dans des grands incontournables.
Tu sais, c'est parce que même au-delà du Québec, hein, justement, je veux dire, trouvez une autre, une BD qui a une... pensez-y une contrainte comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'adore des thèmes de Marco, parce qu'un coup qu'on a trouvé les 4 seules BD qui correspondent dans tout l'univers de la BD, ben tu sais, on peut aller de l'avant.
Non, mais c'est ça, on couvre le sujet de A à Z.
Oui, non, c'est ça. Tu dis max, il y a 5 BD là-dessus.
Mais c'est pas faux dans la mesure où notre schéma narratif est pas inopiné. Dans le fond, on regarde une BD de strip qui s'intéresse à la littérature. Après ça, on amène un strip qui s'intéresse au strip. Ensuite, ben dans le fond, on joue avec la structure, avec des structures classiques dans un contexte de structure de BD jeunesse, super-héros et le reste, et on pousse une coche plus loin avec un jeu structurel, mais qui est littéralement imposé par la fabrique intrinsèque de l'album. Et dans les 4 cas, ben c'est pour l'ensemble, dans le fond, des œuvres qui vont au bout, je pense, de leur concept et qui assument parfaitement leur concept, et c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne. Je veux dire, le fond du trou, il l'exploite, la BD est centrée sur ce trou-là et ça fonctionne aussi parce que il réussit à bien l'exploiter. Un peu comme Sam Strip, ça marche parce que on va jusqu'au bout puis on va trouver toutes les itérations qu'on peut faire. Le jusqu'au boutisme paye parfois en humour.
Tout à fait. Mais, c'est fait par des professionnels aussi. Je veux dire, on parlait de Jean-Paul Hyde qui a travaillé son... et qui fait fonctionner la chose, mais tu sais, ça n'a pas dû prendre 3 semaines, là, son affaire.
Non, parce que ça fonctionne non. À chaque fois, ouais, puis et ça ne se répète pas.
Et Sam Strip, Mort Walker et Dumas, c'était déjà des professionnels du strip, alors sortir ce genre de choses-là une fois par jour, tu sais, il faut le faire aussi.
Non,
là,
c'est ça, c'est des...
Développer, il vient tu sais, c'est des quand je dis des professionnels, c'est des gens qui maîtrisent leur métier. Gould, ça doit être la même chose, là. On regarde, puis habituellement, les strips parus en un recueil, la plupart du temps, les lire tout d'un bout, tu sais, ça fonctionne pas toujours parce que l'effet, c'est le lire à la semaine, la lire à la journée, tu sais, puis tu passes à autre chose et tout, mais le lire d'un coup, parfois ça fonctionne pas. Mais dans ces cas-là, on voit que c'est des auteurs qui maîtrisent leur art.
Ah, ça prend des kings, hein, t'as pas de choix.
Alors, je rappelle les 4 titres qu'on a discutés. Donc, En cuisine avec Kafka de Tom Gold chez Alto. Sam Strip, The Comic About Comics de Mort Walker et Jerry Dumas chez Fantagraphics. Pascal Jousselin, Imbattable, tome 1 chez Dupuis. Et Jean-Paul Hyde, Le fond du trou à la pastèque. Alors, c'était les 4 livres du club de lecture avec Émilie Roy-Brière, Édouard Tremblay et Marco Duchesne. Merci à vous 3.
Un plaisir, mon ami.
On se dit au mois prochain pour un autre club de lecture et peut-être avant si affinité. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Dans les prochaines semaines, l'émission va se mettre en mode Festival Québec BD qui s'en vient. Alors, on portera quelques regards sur la programmation la semaine prochaine et la suivante. Alors, ben, d'ici là, passez une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de La vie en BD.